Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour la tribune de la presse de ce premier vendredi du mois d'avril. Clôture de la 5e grande commission mixte RDC-RSA à Pretoria en Afrique du Sud. La chambre haute du Parlement écrit au sénateur Jean-Pierre Bemba au sujet de son séjour prolongé à l'étranger. Affaire Bundudia Congo, l'Assemblée nationale formule des recommandations à l'endroit du gouvernement et du leader de BDK, l'honorable député Nemwanda Seni. Ce sont là les sujets que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Il s'agit de Don Piero Tukani, correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo, Francis Kalonga, journaliste de la radio communautaire Dikoudietou, émettant à Kananga, au Kasaï occidental. Ils interviendront au téléphone. Et Luc Roger Mbala, directeur de rédaction du journal L'Observateur, qui paraît à Kinshasa. Il est avec nous dans ses studios. Bonsoir à toutes et à tous. Commission mixte RDC, RSA, Kinshasa et Pretoria décidés à renforcer leur coopération. Engagement pris hier soir dans la capitale sud-africaine par les chefs d'État des deux pays, Thabo Mbeki et Joseph Kabila. Ce cadre de la collaboration entamée depuis 4 ans lie les deux pays par une trentaine d'accords. Domaine sécuritaire, diplomatique, économique et même social. Tout cela est passé au peigne fin. Georges Kamoudjova, envoyé spécial de Radio Kapi à Pretoria.
Dans le discours d'ouverture, le président Kabila a estimé que l'évaluation se baserait sur les résultats. Selon les travaux des experts des deux pays, la coopération militaire a battu le record des autres secteurs avec 83% d'exécution, ce qui réjouit le président congolais.
Est-ce qu'il se satisfait de la coopération dans le domaine de la défense avec l'Afrique du Sud? Oui, bien sûr. C'est tout un processus jusque-là qui a produit des résultats. Et sur le terrain, il y a beaucoup de travail, de formation surtout.
Après l'organisation des élections, la partie congolaise met les projets économiques à l'avant. Là, les résultats sont alarmants. Seulement 12% d'exécution, constatent les experts. L'une des raisons évoquées est l'absence de financement qui, majoritairement, sont à la charge de la République sud-africaine. Le ministre congolais de la coopération, Boussanya Mouissi, garde espoir.
Le chemin est déjà balisé, donc ce n'est plus très difficile entre nous et les Sud-Africains.
Vous n'êtes pas déçu par la question de financement?
Pas du tout, comment être déçu? Il y a beaucoup de choses qui se font, sauf qu'il y a une demande trop forte chez nous. On a identifié des sources additionnelles de financement. Et aussi le recentrage de ce financement sur des projets précis.
Combien donneront les banques sud-africaines?
Ce qui est connu, c'est déjà quelques centaines de millions de dollars, mais qui sont susceptibles d'être augmentés de d'autres centaines de millions de dollars.
L'argent débloqué, le problème n'est pas fini. Il reste la coordination pour le gérer et la ratification d'autres accords par le Parlement congolais. De Pretoria, Georges Kamoudjova pour Radio Okapi.
Georges Kamoudjova le disait, dans la coopération économique et sociale, les deux pays n'ont pas beaucoup évolué. Beaucoup de projets pour peu de moyens. Le président Thabo Mbeki estime, lui, qu'il faut faire intervenir d'autres partenaires. Le président sud-africain au micro de Georges Kamoudjova.
En ce qui concerne les projets économiques, tels que les études de faisabilité qu'exigent certains projets, ce sont des sujets que nous allons discuter avec la Banque africaine de développement. L'ABAD a présentement des fonds pour ce travail de préparation de projets. Et tous deux, nous allons approcher l'ABAD pour financer ce projet. Et dans le même sens, nous sommes d'accord pour percevoir aussi l'aide d'autres partenaires privés ou publics pour le financement de certains autres projets. Ça peut nous aider à les accélérer. C'est comme le projet de Inga 3. Pour compléter et finaliser une fois pour toutes, nous comptons sur les investisseurs potentiels pour accomplir ce projet en particulier. Ça peut être des banques ou des institutions.
Luc Roger Lumbala, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du journal L'Observateur qui paraît à Kinshasa. Quelle analyse faites-vous de cette coopération entre la RDC et la République sud-africaine?
Bien, je salue d'abord tous les milliers d'auditeurs de la radio Okapi. Il faut dire que la lune de miel entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo date d'il y a pratiquement 6 ans, à l'époque déjà du dialogue intercongolais à San City. Je me rappelle qu'en marge du dialogue intercongolais, Congolais et Sud-Africains étudiaient déjà les possibilités de coopération de développement. Et comme l'a dit le président sud-africain, il est question de faire intervenir d'autres partenaires sur des micro et des macro projets, par exemple la phase de la réhabilitation de Inga 3 qui nécessite des capitaux frais, et là l'apport de la banque mondiale et même de la base de la Banque africaine de développement est déterminant pour que tous ces projets puissent être réalisés. Vous avez suivi le président sud-africain et congolais l'ont dit à Pretoria que beaucoup reste encore à faire, il faut chercher des financements. Donc en fait, ce sont deux projets à long terme qui doivent être réalisés, mais encore faudra-t-il que les deux parties arrivent à réunir des capitaux et à faire pour bien mener les études de faisabilité sur place.
Francis Kalunga, vous êtes journaliste de la radio communautaire d'Ikoudietou, émettant à Kananga, au Kasaï occidental, la clôture pratiquement de la 5e grande commission mixte RDC-RSA.
Je commence, comme mon prédécesseur tout à l'heure, par saluer tous les auditeurs de Radio Okapi de cette émission. Également, c'est vrai que le chef de l'État, dans ses prérogatives, entame des contacts diplomatiques avec des pays amis qui voudraient bien aider la République démocratique du Congo. On ne peut que saluer une telle action, mais cependant, il y a une certaine crainte là-bas au nombre de contrats ou des conventions signées, 30, mais pour très peu de moyens qui ne sont pas clairement définis. Le chef de l'État le dit d'ailleurs lui-même, et que au niveau de la sécurité, avec la formation des militaires, ça va déjà à plus de 70%. C'est quelque chose. Mais quelque chose qui me tique un peu, c'est que on décide bien sûr passer des choses comme ça, des projets qui vont rester lettre morte longtemps, parce qu'on ne donne pas à la République démocratique du Congo tous les montants des millions ou des milliards de dollars déclarés sur papier ou dans les grands discours malgré la clôture de cette tripartite, la 5e, tu l'as dit tout à l'heure, que la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont entamé. Le prédécesseur l'a dit, c'est depuis le dialogue intercongolais, mais je dirais encore un peu plus du temps du fait Maréchal Mobutu Sese Seko et le feu Laurent Désiré Kabila. Je crois que c'est l'Afrique du Sud qui a joué à la médiation entre les deux, à l'époque sur Tenika, etc. Donc la coopération entre la RDC et la RSA ne date pas de ce matin, mais toutefois on se demande, les gros moyens annoncés n'arrivent toujours pas à temps ou n'arrivent presque pas. On se demande si cette fois va être décisive pour permettre à la République démocratique du Congo de décoller. À vous.
Merci Francis. Don Pierrot Toukani, vous êtes correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo. Quelle analyse avez-vous? Vous avez suivi Francis Kalunga, on signe des contrats, mais le concret sur terrain, vous avez suivi également le président sud-africain qui déplorait le fait que beaucoup a été fait, mais il n'y a pas assez de moyens, il faut associer d'autres partenaires. Qu'est-ce que vous avez comme interprétation?
Moi, je crois que la coopération avec l'Afrique du Sud, c'est une coopération exemplaire, dans la mesure où même le grand du président, le grand de Sénégal, il avait prévu la coopération sud-sud. Il faut que nous, Congolais, ne puissions pas toujours trop attendre de l'extérieur. Nous avons des opérations économiques très performantes.
Donc Pierrot, là, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce que votre ligne là, on vous entend pas très bien. Il est parti, Luc Roger Mbala. Vous êtes apparemment optimiste par rapport à cette coopération. Qu'est-ce que tout cela apporte? Est-ce que la population ressent vraiment les effets même de la coopération RDC-RSA?
Bien, il faut dire que, optimiste peut-être oui, mais je crois que c'est encore trop tôt de dire que la population ressente déjà. Peut-être que c'est
elle a commencé quand même depuis longtemps, vous savez, dialogue intercongolais.
Tout à fait. On a évoqué tout à l'heure le problème des capitaux. Après les
élections, il y a beaucoup de partenaires qui ont promis de débloquer des fonds pour la reconstruction économique du Congo. Mais malheureusement, force est de constater que beaucoup n'ont pas encore mis la main dans la poche. Ça, c'est d'un. Il y a une autre réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, est à la recherche des matières premières. Ça, c'est d'un. Et puis, l'Afrique du Sud est à la recherche de l'énergie. Il a besoin d'énergie pour alimenter sa croissance, pour faire fonctionner ses industries lourdes. Et l'Afrique du Sud comprend que des partenaires, des pays aux ressources naturelles et économiques riches comme la RDC peuvent jouer un rôle déterminant dans la croissance économique, pas seulement de l'Afrique australe, mais aussi de l'ensemble du continent. Et quoi de plus normal que de mobiliser toutes les énergies intellectuelles et même financière, parce que là, ils l'ont dit, il faut solliciter tous les bailleurs, il faut solliciter la BAD, il faut solliciter la Banque mondiale, il faut solliciter d'autres partenaires traditionnels pour que cette dynamique de coopération puisse apporter les fruits et que la population puisse le ressentir sur le terrain.
Ok. D'ailleurs, en rapport avec le communiqué final même de cette commission mixte RDC-RSA, les deux parties ont convenu de mettre en place une cellule de coordination pour le suivi des engagements et accords conclus et veiller à la mobilisation des ressources. Francis Kalunga, pourquoi ces craintes?
Merci vraiment. J'ai vraiment de craintes, je le dis à haute voix, parce que c'est pas la première fois que les pays amis, Luc Roger l'a dit, les pays amis essaient de voler au secours de la République démocratique du Congo. Mais le pays, le nôtre, il va avec quels moyens? Qu'est-ce que notre pays présente comme préalable? Parce qu'il n'y a pas que les autres qui doivent agir sur nous. Au fur et à mesure qu'ils vont tout donner ou que nous devons tous attendre d'eux, j'espère qu'à leur tour, ils ne peuvent pas donner sans profit. Et j'ai peur vraiment que leurs intérêts puissent être dominants et même prédominants sur les attentes de la population. C'est quoi, par exemple? Promettre à un gouvernement, on va former l'armée, on va faire ceci. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu l'identification des militaires congolais par l'armée sud-africaine. Bon, je trouve déjà c'est un secret de l'État, mais qui est déjà dans l'autre camp. Comment voulez-vous, par exemple, que les militaires soient formés, mais le social du militaire reste encore un problème non résolu? Peut-être en promettant autant de capitaux, on penserait que les conditions sociales du militaire congolais, de l'armée congolaise, pouvaient être améliorées. Mais lorsque ces fonds ne sont pas arrivés, surtout parce que la partie congolaise n'attend que tout de l'extérieur, je ne vois pas combien, même si on mettait sur pied une commission de suivi, je ne sais pas, elle va suivre quoi, parce que l'autre partie ne libère pas ce qu'elle a donné et l'autre partie n'attend que ce que l'autre va donner. De toutes les façons, l'équation reste un petit peu difficile.
Merci Francis Kalunga. Donc Piero Toukani, la technique me signale que vous êtes maintenant avec nous. En fait, nous vous avions posé la question, hein, votre réaction par rapport à la clôture de cette grande commission mixte RDC-RSA, des contrats, mais vous avez suivi également le président sud-africain qui disait qu'il faudrait associer encore d'autres partenaires pour justement appuyer et donner un peu du poids aux différents accords. Quelle est votre réaction?
Oui, je disais que la coopération Sud-Afrique RDC est à prendre un exemple. L'Afrique du Sud a déjà beaucoup fait pour d'autres pays, vous savez, au niveau même de la fonction publique, il s'est impliqué très très sérieusement. Mais moi, le problème, c'est maintenant, je crois, un appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais. Vous savez, il y a beaucoup de domaines, on peut copier l'Afrique du Sud. Dans le domaine du tourisme, par exemple. Vous savez que le tourisme, c'est un des domaines qui n'a jamais été sérieusement exploré dans notre pays, alors que nous avons des potentialités énormes. L'Afrique du Sud a des parcs comme chez nous, l'Afrique du Sud a des hôtels comme chez nous, l'Afrique du Sud a pas mal de choses comme chez nous. Moi, je crois que nous pouvons nous inspirer du modèle de l'Afrique du Sud, comment il a développé ces domaines extrêmement importants.
En passant, Don Piero, j'aimerais quand même signaler que c'est en Afrique du Sud, à moins que je ne puisse me tromper, où l'on retrouve une plus grande communauté congolaise.
Exactement, nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud, on ne sent pas leur participation dans l'effort du pays. On ne sent pas leur participation dans le redressement de ce pays. Il y a beaucoup d'opératives économiques, comme vous avez l'Afrique du Sud, partout ailleurs, qui ont investi sérieusement là-bas. Et nous voulons maintenant qu'on nous aide, On doit réhabiliter Inga ici, on doit réhabiliter, on attend que l'Afrique du Sud puisse intervenir et tout ça. Mais quel est l'apport des opérateurs économiques du Congo qui sont à l'Afrique du Sud, qui investissent en Afrique du Sud? Quel est les rapports? Moi, je n'ai pris qu'un domaine, le tourisme. Mais on peut se calquer sur l'Afrique du Sud pour voir comment ils vont développer toutes ces choses. Et l'apport des opérateurs économiques d'autres pays serait le bienvenu.
Le projet, vous avez suivi Don Pierrot, sûrement que vous avez une réaction ou un mot à placer par rapport à ce qu'il vient de dire.
Je suis tout à fait d'accord avec Don Pierrot. Je suis également d'accord avec Francis, parce qu'il y a cette coopération, c'est vrai, mais il faut aussi qu'il y ait cet effort interne. C'est-à-dire que la société civile congolaise doit être beaucoup plus agressive et beaucoup plus entreprenante dans ce secteur. Prenons les secteurs dont on a parlé dans Pierrot, le tourisme. Par exemple, moi j'ai lisé dernièrement un journal sud-africain qui est en train de réfléchir comment en 2010, lors de la Coupe du Monde, on peut générer le tourisme, comment le tourisme peut s'exporter, pas seulement en Afrique du Sud, comment ces gens qui viendront suivre la Coupe du Monde peuvent aller voir, par exemple, les gorilles des montagnes au Kivu, par exemple. Et ça doit être également une action qui doit être menée au niveau des opérateurs économiques congolais, qui doivent réfléchir. Il y a le secteur du tourisme, il y a le secteur de la recherche scientifique, par exemple. Nous avons une potentialité nucléaire assez considérable, ne serait-ce que dans le domaine du nucléaire civil. Nous avons un centre nucléaire ici. Ouais. L'Afrique du Sud est intéressée. Donc, ce sont des domaines où on peut multiplier des coopérations, pas toujours au niveau gouvernemental, au niveau bilatéral, mais au niveau de la société civile. Et là, il faut une impulsion également.
L'impulsion
doit partir aussi bien de la société civile congolaise que des acteurs politiques. On a parlé de la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Nous avons vu cette diaspora. Moi, j'ai eu la chance de couvrir les dialogues intercongolais. Nous avons vu cette dynamique diaspora congolaise en Afrique du Sud. Mais quels sont les efforts qui sont faits pour que cette diaspora congolaise apporte sa contribution au niveau du pays? On peut canaliser cet effort, ce flux de richesses qu'ils envoient à leurs familles. On peut canaliser ça.
Comment cela, mettre en place des structures?
Des structures. Le Mali, un pays comme le Mali tire des bénéfices de l'argent envoyé par la diaspora malienne à l'étranger. Nous pouvons créer des structures. Mais là, il faut également qu'il y ait des équipes de faisabilité, qu'il y ait une transparence et une bonne gestion de la chose qui va. Et là, nous revenons encore sur le problème dont on a toujours parlé et qui constitue vraiment une des épines dans la scène politique. Il faut la bonne gouvernance, il faut une transparence et il faut également développer des imaginations pour pouvoir coordonner toutes ces actions.
Merci. Nous passons directement à la deuxième partie de notre émission. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a déploré le mardi 1er avril dernier à l'agence France Presse la décision du Sénat de considérer désormais ses absences comme injustifiées. La question de mon retour reste éminemment politique et doit être traitée comme telle, a déclaré le sénateur Jean-Pierre Bemba, joint par l'AFP au Portugal où il réside. C'est disant surpris d'avoir appris la décision du Sénat par voie de presse et précisant ne pas avoir encore reçu son courrier. Pour rappel, la Chambre haute du Parlement a saisi le 31 mars dernier le sénateur Jean-Pierre Bemba en rapport avec son absence prolongée au Sénat. Selon le rapporteur du Sénat, le départ de Jean-Pierre Bemba au Portugal pour des raisons des soins médicaux a été autorisé par le Sénat, mais après les soins médicaux, il se pose encore un problème de sa sécurité. Et comme c'est le gouvernement qui s'occupe de la protection des personnes, Modeste Mutinga précise que le bureau n'a fait que le saisir de ce problème, car, dit-il, beaucoup de gens commençaient à se poser des questions sur le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays et qu'il était temps de couper court au silence. Modeste Mutinga, au micro de Jeff Ngoy.
Le bureau du Sénat n'a pas dit que l'honorable Jean-Pierre Bemba est parti en Asie. Après sa guérison, il se posait le problème de sécurité. Et comme c'est le gouvernement qui s'occupe de la protection des biens et des personnes, le Sénat s'est adressé au gouvernement. Et le Premier ministre venait de donner réponse à cette préoccupation de notre collègue. C'est cette préoccupation que la réponse du gouvernement que nous avons communiquée à l'opinion Matignon qui ne cesse de s'inquiéter de l'absence du sénateur Jean-Pierre Bemba. La question intéresse au plus haut niveau l'opinion nationale. Nous ne devons pas garder la réponse du gouvernement à travers le bureau du Sénat. Il était tout à fait normal que nous tenions l'opinion des milliers d'adhérents du MSC qui sachent que le gouvernement a répondu à cette préoccupation.
Francis Kalonga, comment vous analysez cette correspondance du Sénat vis-à-vis du sénateur Jean-Pierre Bemba au sujet de son retour?
C'est une surprise. Je suis un petit peu désolé de voir qu'il y a un paradoxe entre la première position prise par le Sénat et tout à l'heure le rapporteur du Sénat, vous l'avez suivi. En son temps, lorsque Jean-Pierre Bemba quittait le pays pour raison de santé au Portugal, évidemment, le Sénat l'a soutenu parce qu'à un certain moment, il y avait une date qui s'est avancée pour le retour du sénateur Bemba. Mais la date ayant été dépassée, le Sénat avait encouragé en son temps que Bemba pouvait revenir tant est-ce qu'il, à n'importe moment lorsque cela pouvait lui plaire. Nous sommes surpris de voir qu'aujourd'hui, le Sénat essaye de se référer ou de se réfugier derrière le gouvernement pour dire, écoutez, maintenant, le problème de santé étant terminé, il s'était posé le problème de sa sécurité. Qu'est-ce que le Sénat dit à propos de la sécurité de Bemba? Et je pose la question à qui profite cette absence de Bemba. Parce qu'à un certain moment, Jean-Pierre Bemba, comme chef de file de l'opposition actuelle, l'opposition interne, devait être présent au Sénat et à la tête de son équipe pour pouvoir peut-être orienter une opposition constructive et reconstructive de la République. Mais il est absent, encouragé pendant un temps. Maintenant, au lieu de le saisir et savoir nous dire à propos de sa sécurité, qu'est-ce qui a été fait au niveau du gouvernement, c'est plutôt la réponse qui vient du gouvernement que le Sénat réitère et l'adresse à Jean-Pierre Bemba pour demander qu'il revienne. On va considérer ses absences comme injustifiées. C'est un paradoxe et moi je trouve ça un scandale politique qui n'amène pas le Congolais à savoir exactement où est-ce qu'on veut en arriver avec les Congolais et le peuple qui peut-être une fois de plus n'arrive pas à comprendre pourquoi tel ou tel autre peut avoir telle ou autre position. Voilà un peu mon analyse. Je ne trouve pas que le Sénat pouvait attendre la réponse du gouvernement. Parce que c'est du Sénat qu'on attendait la position du sénateur qui est membre du Sénat pour que le gouvernement sache sur quel pied danser et que le peuple sache exactement comment il est représenté au niveau de l'opposition, tout comme au niveau du pouvoir en place et au niveau des institutions issues des élections.
Francis Kalonga, vous êtes sans ignorer que le sénateur Jean-Pierre Bemba pose toujours le problème de sa sécurité personnelle. Et est-ce qu'il appartient au Sénat de répondre, c'est au Sénat qu'appartient cette responsabilité-là de résoudre ou de répondre aux préoccupations de Jean-Pierre Bemba?
Tout à fait. En partie, c'est au Sénat. Parce que le Sénat doit suivre. Je crois que c'est un membre du Sénat. Le Sénat a un rôle à jouer dedans, à savoir comment évolue l'autre de l'autre côté. Si pour raison de santé, le Sénat estime que maintenant, le sénateur Bemba est bien portant. Mais sur le point de la sécurité. Parce que le problème de la sécurité ne se pose pas là où se trouve Bemba. Il se pose ici où les sénateurs et le Sénat congolais se trouvent. C'est ici que se trouvent les institutions dont fait partie Bemba, bien qu'indirectement au niveau du Sénat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Sénat maintenant, c'est comme si lui aussi hésitait sur la position à prendre si Bemba sera sécurisé ou si Bemba c'est une fuite de responsabilité.
Merci.
Du côté de Bemba aussi, du côté de Bemba aussi, le motif pour lequel il a pu obtenir le visa pour sortir, c'était pour la santé. C'est de l'extérieur qu'il a pu parler de sa sécurité. Bon, j'espère que tout de même, il a été élu sénateur, pas pour être au Portugal, il a été sénateur et qu'il préfère venir ici, parce que même le problème de la santé touche à sa sécurité.
Merci.
S'il revient au pays, moi je crois que le chef de l'État, en son temps, a pris l'initiative de sécuriser tout le monde parmi ses prérogatives.
Merci.
Le sénateur Bemba ramasse son courage de revenir au pays. Le peuple a besoin de Bemba.
Merci.
Le peuple a besoin de tout le monde ici pour la reconstruction. C'est notre affaire à nous tous.
Merci Francis Kalonga. Don Pierrot, est-ce que vous partagez le même point de vue que Francis Kalonga par rapport d'abord à la correspondance du Sénat au sénateur Jean-Pierre Bemba?
Moi, je crois que c'est un problème karma politique. Comme il y en a eu pas mal dans le pays, et le gouvernement s'est prononcé pour ce qui est notre cas. Je citerai par exemple le cas que tout le monde connaît au niveau du Kivu avec Laurent Kunda.
Okay.
on a trouvé une solution politique. Je me rappelle qu'un jour, on avait débattu de ce problème dans ce forum. Il y a eu des avis différents. Mais c'est le gouvernement a privilégié la solution politique. Jean-Pierre Bemba représente quand même quelque chose dans ce pays. On peut tout se dire. Il représente quelque chose dans ce pays. Et moi, j'estime que ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut participer à la reconstruction de ce pays. Le Congo a besoin des mains, de tête de tous ses enfants. Donc, nous devons faire en sorte, au niveau du gouvernement, pour créer un climat qui permettrait à tout le monde de vivre dans son propre pays. Nous avons besoin des idées, nous avons besoin de têtes, nous avons besoin des mains, et ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut contribuer sérieusement à la réhabilitation de ce pays. Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas que ce soit un exil à l'extérieur qui peut être très utile dans ce pays. Il faudrait que le gouvernement, qui en a le moyen, puisse garantir cette garantie.
Est-ce que vous ne pensez pas, Don Pierrot, que Jean-Pierre Bemba est trop exigeant également vis-à-vis du gouvernement en ce qui concerne sa sécurité?
Trop exigeant, peut-être. Mais il faut aussi représenter ce qu'il représente, lui. Hein. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas... Je ne dirais pas n'importe quel Congolais, pour me dire oui, mais il a été quand même deuxième à l'élection présidentielle. C'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose de très important dans notre pays. Et je crois que le gouvernement peut trouver une solution pour le cas de Jean-Pierre Bemba. Qu'on peut se disait comme il voudrait que ce soit ainsi, mais ce n'est pas seulement lui, mais il y a aussi beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent bien venir ici, mais qui ont besoin d'être ici.
Ok, merci. Luc Rosimbala, vous pensez, comme Don Piero Toukani, qu'il faudrait une solution politique pour le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba?
Absolument, absolument. La question du retour de Jean-Pierre Bemba, c'est une question éminemment politique. Nous savons tous comment Jean-Pierre Bemba a quitté le pays après les événements de triste mémoire que Kinshasa a connu. Il fallait, bien sûr, assurer son retour avec un minimum de dispositions prises. Mais moi, en fait, au-delà de tous les discours qui ont été faits aussi bien par le Sénat ou le gouvernement, ce qui me choque le plus, vous savez, c'est ce déficit de communication et qui a élu domicile dans les structures gouvernementales du pays. Le rapporteur du Sénat annonce à la presse que M. Jean-Pierre Bemba risque de perdre son mandat pour séjour prolongé à l'extérieur. 48 heures après, Jean-Pierre Bemba réagit pour dire « Je n'ai jamais été informé ». Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que Jean-Pierre Bemba était informé de ce risque qu'il courait du processus qui était déclenché pour lever son immunité en tant que sénateur? Ça, c'est
le processus est régi dans le règlement d'ordre intérieur du Sénat.
Le processus est régi, mais il appartient au tenant justement du pouvoir de rappeler toujours l'acteur politique à l'ordre. Parce que Jean-Pierre Bemba, comme a dit Francis, est sorti pour des raisons de santé. Mais il arrive à l'extérieur, il pose des problèmes de sécurité. On devait créer pour voir un peu qu'est-ce qu'il est en train d'exiger pour qu'il rentre au pays. Parce que ce n'est pas depuis le Portugal, depuis cet exil doré, qui peut diriger, qui peut jouer un rôle dans la vie politique du pays. Ça, c'est bien. J'ai comme l'impression également qu'entre le gouvernement et le Sénat, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Le gouvernement dit que non, le problème de Jean-Pierre Bemba ne se pose pas, il faut qu'il rentre. Le Sénat également intervient de son côté, il dit non, voilà, nous devons tout faire pour que Jean-Pierre Bemba arrive. On ne sait pas qui est en train, qui dit vrai dans cette affaire. C'est comme si on veut créer un flou artistique pour que la situation perdure. Moi, j'ai comme l'impression que la situation, l'affaire Jean-Pierre Bemba est devenue un fonds de commerce pour les uns et les autres. Donc, il faudra qu'il y ait des concertations. Il faudra qu'on voit quelles sont les raisons réelles que pose Jean-Pierre Bemba pour qu'il rentre au pays. Le problème de sécurité, c'est vrai, il y a des problèmes de sécurité. S'il faut que lui garantir le respect de sécurité, il faut que le gouvernement mette de tous les paquets pour...
Par rapport à cette garantie de sécurité, est-ce que, je vous repose encore la question que j'avais posée à Don Piero, Jean-Pierre Bemba n'est pas trop exigeant également en ce qui concerne sa sécurité, Luc Rosimbala?
Non, je dis, nous connaissons dans quelles conditions c'est les parties du pays. Il y a eu des affrontements avec Kinshasa. Il y a eu des pertes en vie humaine. Et tout ça a des répercussions. Il y a certaines personnes qui ont perdu les plus proches. Donc il faudra éviter que le retour de Jean-Pierre Bemba donne lieu à une série de manifestations. Souvent ça arrive. On a vu ça. Donc il faudra que qu'il y ait une certaine garantie de sécurité pour son retour. Et il faudrait que le gouvernement prenne des mesures pour que de telles situations, et Jean-Pierre Bemba puisse rentrer siéger au Parlement, et que Jean-Pierre Bemba, de son côté, doit également mettre de l'eau dans son vin pour comprendre que l'heure n'est plus au débat stérile et que nous passons maintenant au stade de la consolidation de la démocratie. Il doit venir jouer son rôle de l'opposition républicaine.
Francis Kalunga, le sénateur Jean-Pierre Bemba a estimé vivre dans un exil forcé et être empêché de rentrer en RDC où sa sécurité n'est pas selon lui garantie. Votre lecture par rapport à cette affirmation du sénateur Jean-Pierre Bemba, si la solution doit être politique, d'où viendra justement cette solution, du chef de l'État ou du gouvernement?
Merci vraiment de la question. Je crois que nous ne devons pas oublier que Jean-Pierre Bemba, Luc Roger Mbala l'a dit, lorsque Jean-Pierre Bemba est parti, et on connaît dans quelles conditions, il y a eu des événements, il y a eu mort d'Omar Kinshasa, et tous ces Congolais qui sont morts après élection, avaient l'espoir en votant un jour, ils se disaient après élection, peut-être que les choses vont s'améliorer, nous serons bien. Mais du coup là, le deuxième candidat à cette élection-là, se retrouve en exil. Mais avant son départ, il y a des ceux qui l'avaient élu et qui avaient élu le président de la République qui sont tombés, qui sont morts comme ça. Un jour, je vous demande, je crois que c'est sûr, renvoyons-nous à la Bible, au récit de Caïn et Abel, pour dire qu'un jour, le sang de tous ces Congolais, Dieu va le réclamer. Et qui doit payer? Si c'est Bemba qui doit payer, je crois qu'à ce moment-là, la question de la sécurité ne se pose pas. Mais si nous sentons que nous sommes tous concernés, et d'une manière ou d'une autre, les acteurs, et les commanditaires, les complices et autres, devront sentir que la sécurité est politique. Politiser, sécuriser Bemba, c'est pas seulement la personne de Bemba qui doit être sécurisée. Quand Bemba rentre, Luc l'a dit tout à l'heure, quand Bemba est sorti, il rentre au pays, il y a toujours des affrontements, il y a toujours des mouvements, des violences, etc. Est-ce qu'il faudrait encore que Bemba vienne? Si c'est pas Bemba qui est violenté, mais peut-être encore quelques Congolais autour de lui ou peut-être en face de lui vont rencontrer la mort. Faut-il continuer avec cette gymnastique-là qui n'est toujours pas encouragée? Merci. Et de l'autre côté, tu demandais si c'est au sommet de l'État. Nécessairement, je vous dis, nécessairement c'est au niveau du chef de l'État. C'est lui le garant de la paix, c'est lui le garant de la nation. Le chef de l'État a tout le pouvoir de sécuriser toute sa population. Et les autres institutions, vous savez d'abord que le président de la République a lui seul fait déjà une institution. Mmh. Et si déjà à ce niveau là-bas, on n'a pas trouvé la solution, je crois qu'au niveau de la case ou de l'État, on ne saura pas trouver la paix sociale qui maintenant est émaillée de beaucoup d'irrégularités. Mmh. Nous avons des impayements des fonctionnaires, et les salaires divisés par deux, et les enfants sont au chômage pour le moment des grèves, etc. Et on se demande pourquoi seulement chez les enseignants, chez les magistrats, les médecins et autres. C'est pour vous dire que le malaise social, la sécurité sociale, on ne peut pas aussi même comme fils du pays, je crois que c'est d'abord au chef de l'État. On ne peut pas poser la question à une autre personne. Et le chef de l'État, chef du gouvernement, et les autres institutions devront participer, c'est-à-dire tous les Congolais, mais d'abord, commençant par le chef.
Merci, Francis Kalunga. Don Pierrot, une analyse?
Oui, moi je crois que nous devons nous poser la question de savoir à qui, à quoi profite le séjour prolongé de Bemba à l'extérieur. Et même à l'extérieur, et c'est bon pour la démocratie ou c'est mauvais pour la démocratie? Nous devons essayer un peu de faire le contour de ce problème, et je crois que le président de la République, qui s'est montré un homme au-dessus de la mêlée, peut intervenir dans ce dossier et qu'on peut trouver une solution politique à ces problèmes politiques de Jean-Pierre Bemba.
Merci, Don Piero Stoukani. Les députés nationaux ont adopté le samedi 29 mars dernier des recommandations à l'intention du gouvernement et du leader de BDK sur les événements survenus dans cette province le mois dernier. Il s'agit notamment de la nécessité d'organiser une conférence pour la paix et le développement économique du Bas-Congo et une caravane de paix visant à sensibiliser les populations de cette province. Amener le BDK à définir son statut juridique, soit un mouvement religieux, soit un parti politique ou encore une association culturelle, mais pas les trois à la fois. Toujours parmi les recommandations, le gouvernement doit assurer le retour des adeptes de ce mouvement éparpillés dans la brousse. Quelques réactions sur ces recommandations. Les députés Jean-Claude Mbouemba, un proche de BDK, affirme être très satisfait de toutes ces recommandations. Pour lui, il ne pourrait pas avoir brassage des adeptes de BDK, les Makessa, car BDK n'a jamais eu de camp d'entraînement de Makessa. Mais il soutient par ailleurs la tenue de la table ronde et estime que tous les sujets doivent être abordés pour faire régner la paix dans cette province. Jean-Claude Bouemba au téléphone de Nadine Foula.
Je ne pouvais être que satisfait de toutes ces résolutions et ces recommandations. Il faudrait que les choses soient claires. Bundulia Congo n'a aucun camp de concentration. Bundulia Congo avait certains camps là où ils faisaient leur type de développement sur l'agriculture et ainsi que autre chose, que l'État congolais avait déjà fermé il y a plus de 2 ans. Et de 2, en ce qui concerne l'agrément de Bundulia Congo, elle a toujours été là. Mais comme maintenant le gouvernement souhaite, sur recommandation du Parlement, qu'il puisse bien spécifier que c'est un mouvement religieux, il le ferait, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour cela, il doit y avoir et nécessiter, avec les recommandations, commencer le plus vite possible à chercher le contour pour que la table ronde du Bas-Congo puisse faire lieu. Mais une seule chose est certaine, aucun sujet ne sera tabou.
Pour le compte de l'AMP, les députés nationaux Kiaviro soutient également la tenue de la table ronde au Bas-Congo, mais il souhaite que son organisation soit mieux que celle tenue à Goma. Quant au statut de BDK, il estime que c'est un mouvement culturel qui doit avoir comme objectif la revalorisation de la culture Congo. Jean-Ernest Kiaviro, député du RCD-KNL, est au micro de Nadine Foula.
Toutes ces mesures, elles nous permettent d'éviter aussi une fracture au niveau de la nation, entre l'Est et l'Ouest, et entre aussi l'opposition et la majorité. Je soutiens la table ronde, mais qu'on y mette beaucoup plus de sérieux que ce qu'on a fait ici, à Goma. Mais ça ne doit pas être une table ronde où les gens doivent se défouler simplement. Ça doit être une table ronde pour planifier une vie harmonieuse pour les bénéfices de tous les Congolais, en général, et du Bas-Congo en particulier. Moi, j'estime que le BDK, c'est un mouvement culturel qui veut revaloriser la culture Congo. À ce niveau-là, c'est bon. Il faut un recours aux valeurs du Congo et non un retour à la fille Congo d'avant la colonisation.
Luc Rosembala, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du journal L'Observateur qui paraît dans la capitale congolaise. Quelle analyse faites-vous après l'atterrissage en douceur au sujet de la question des événements qui a eu lieu dans le Bas-Congo?
L'atterrissage en douceur, c'est d'ailleurs le mot que j'aime bien. C'est, en fait, j'ai vivement salué la décision des députés qui, sur ces questions délicates, les cas de Bundulia Congo, les événements du Bas-Congo, ont joué un rôle, on se sont comportés en vrai responsable, en vrai élu du peuple. Vous savez, avec tout ce que le Bas-Congo avait connu déjà l'année passée, on aurait pu éviter les morts de cette année, les morts de mars et d'avril, de mars de cette année. Le gouvernement a une lourde responsabilité, parce que moi je me dis que quelque part, si nous sommes arrivés à ce dérapage, c'est parce que quelque part il y a eu absence de l'autorité de l'État. On a laissé les choses s'empirer, on a créé des frustrations, on a laissé certains mouvements prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre l'extrémisme, ce qui fait que quelque part le gouvernement ne pouvant plus contrôler les choses a pu agir. Vous avez vu comment on a dénoncé l'utilisation disproportionnée des forces armées. Il y a eu des pertes parmi les civils, et ça, plus jamais ça dans une province qui, ma foi, a toujours été une province pacifique. Et la tenue d'une tête de la table ronde,
c'est l'une des recommandations.
C'est aussi une bonne chose. Si un peuple, les ressortissants d'une province exigent qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table pour réfléchir sur un certain nombre de questions, c'est une bonne chose. Il faut impliquer, et les ressortissants de la province, il faut impliquer, et tous ceux qui font partie de la République démocratique du Congo.
Pensez-vous, Luc Roger, que le gouvernement est disposé à appliquer ces recommandations? Parce que vous êtes sans ignorer que l'année dernière, il y a eu également d'autres recommandations qui ont été adressées au gouvernement, toujours en rapport avec la question de BDK.
Oui, le gouvernement est là pour le peuple, il est là pour appliquer justement les demandes de la population. Sinon, ils n'existeraient pas. Et ils doivent savoir qu'ils sont là pour un mandat. Et à la fin, il y a une sanction. On va leur demander des comptes.
Merci.
C'est un peu ça. Donc, en fait, la conférence et la table ronde, c'est une chose qui peut apporter un plus dans la réconciliation, dans la pacification de cette province méridionale.
Merci, Luc Roger. Don Pierrot, votre réaction, vous qui êtes dans le Bas-Congo, comment d'abord la population a-t-elle accueilli ces différentes recommandations et votre analyse par rapport aux recommandations de l'Assemblée nationale?
Oui, j'ai suivi le débat au Parlement comme tout matin ici, et j'ai vu le moment avec lequel le matin ont suivi ce débat, et j'étais satisfait de la manière dont le président de l'Assemblée a dirigé ce débat. La table ronde est incontournable pour notre province, et je crois que cela pourrait être la même chose pour les autres provinces de la République. Pourquoi? Il est temps de s'asseoir ensemble, de discuter ensemble, de projeter d'avenir ensemble. La table ronde est incontournable pour notre province, et je crois que cela pourrait être la même chose pour les autres provinces de la République. Pourquoi? Il est temps de s'asseoir ensemble, de discuter ensemble, de projeter d'avenir ensemble. Et s'il y a une sécurité au Congo, on ne sera pas invité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, les ports à profondes qui sont projetés à Banana, il y a beaucoup de choses qui sont projetées dans la province du Congo.
Merci, Don Pierrot Toukani. Francis Kalonga, parmi les recommandations de l'Assemblée nationale, il est prévu l'organisation d'une table ronde. Vous pensez que la tenue de cette conférence peut amener la paix dans cette province?
Oui, mais vous savez que je vais d'abord commencer par saluer les performances des députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale avec le président Vital Kamerhe, qui fait bien son travail, je dois le souligner ici, c'est une occasion. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les résolutions au Congo, on les prend. Et très souvent, je crois que s'il fallait voir où on les couche, on n'a plus de place maintenant. Et c'est au niveau de l'applicabilité. Est-ce qu'on les applique? Dans quel délai? Je suis en train de saluer cette résolution pour qu'il y ait tenu de cette table ronde pour la paix et le développement dans le Bas-Congo. Mmh. Évidemment, longtemps, on vous donne l'impression que les choses marchent alors que ça ne marche pas. Au lieu de s'attaquer à la cause, pourquoi ces gens-là sont mécontents? Et qu'est-ce qui est arrivé à ceci? On a fait traîner les choses longtemps, pourtant, c'est pas là qu'il fallait commencer, et on n'aurait même pas atteint les événements de 2008, alors qu'on s'attendait à tout ce qui s'était déjà passé à leur fin au niveau de l'année 2007 dernière. Bien sûr que l'Assemblée provinciale, nationale, a pris une bonne résolution, mais à elle de faire le suivi et de mettre en place les moyens utiles pour que cette conférence se tienne. Et puis, il y avait une crainte, c'est celle-ci. La conférence de Goma, est-ce qu'il y a la paix à Goma maintenant? Mais un peu de bonne volonté aussi, un peu de la participation de la population du Bas-Congo, la population de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Parce que je suis en train de me demander à qui le prochain tour. Si maintenant, pour chaque province, il y a des conflits et il faut une conférence pour la paix et le développement, peut-être que les provinces qui n'ont pas connu de conflits, je n'en cite pas une ici, mais il y en a nombreuses qui n'ont pas connu de conflits, et on les aurait peut-être encouragés. Mais vous voyez, le financement, les ONG et autres sont orientés vers les provinces où il y a des problèmes. On achète les armes, pendant que les autres, où il y a la paix, on pouvait encourager peut-être à faire le développement qui allait influencer les autres à cesser les hostilités pour revenir au développement et à la reconstruction. On laisse les provinces. J'étais en train de me demander si on donne l'occasion à d'autres provinces qui n'ont pas connu les conflits à emboîter les pas aux deux Kivus et bientôt là au Bas-Congo, et ça sera peut-être le futur de telle autre province.
Dans les différentes recommandations, il était aussi question d'organiser des tables rondes à travers toutes les provinces pour que les gouvernements explique aux populations comment va se passer la répartition, 40%.
Oui, mais vous avez raison. Mais tout de suite, là, pour ce qui est du Bas-Congo, je suis en train de me dire, au niveau de l'efficacité, vraiment, si on pouvait faire quelque chose de consistant, de façon que ça ne soit pas une conférence pour le per diem.
Merci.
Comme c'est presque parce qu'il y a le per diem et presque les mêmes personnes vont partout. C'est ça, donc, que j'ai craint.
Rapidement, nous allons conclure avec Luc Rojimbala. Vous avez un mot à placer par rapport à la tenue de la table ronde ou des recommandations de l'Assemblée nationale?
Oui, à propos justement de la tenue de cette table ronde et même d'autres recommandations, moi je crois qu'il appartient au gouvernement de respecter les textes qu'il a lui-même adoptés. La loi sur la décentralisation et même la rétrocession des 40% provinces, il faut que le processus s'engage. Le chef de l'État avait reçu les députés il y a quelques mois, l'année dernière, pour que cette loi soit mise en application. Ils se sont entendus pour janvier. Il faut que tout cela aille de l'avant pour que le processus de démocratisation puisse être vraiment d'application sur toutes les provinces de la République.
Merci, nous sommes à la fin de cette tribune de la presse. Nous remercions les confrères qui ont participé à cette tribune. Il s'agit de Don Piero Toutani, correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo, Francis Kalonga, journaliste de la radio communautaire Dikou-Dietou émettant à Kananga au Kasaï occidental, et Luc Rojembala, directeur de rédaction du journal L'Observateur qui paraît à Kinshasa. Merci Anselme Sissimoumbéré qui a réalisé cette émission. Nos remerciements s'adressent également à Willem Longamba qui était à la mise en onde. Bonne suite de programme sur la radio Capi.